إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، فالحمد لله عز وجل ما زلنا نقرأ كتاب أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب المكي والمدني. جيد، ففي هذا الباب هنا شرع مؤلف هذه الرسالة القيمة في ذكر ترتيب القرآن، في ذكر ترتيب القرآن، فقال رحمه الله: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. جيد، donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre étude du livre أصول في التفسير، fondement du tafsir du noble Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre intitulé Al-Makki wal-Madani, le Mekwa al-Medinois. Donc ici il va commencer le Cheikh rahimahullah à mentionner ce qu'on appelle Tartib al-Qur'an. Donc Tartib, l'agencement, la disposition ou l'ordre qui existe donc dans le Coran. Donc la disposition du Coran, la façon dont le Coran il est disposé, c'est-à-dire sa lecture, sa récitation, yani passage après passage, les uns après les autres, comme cela est écrit dans le Mushaf. Comme cela est écrit dans Al-Mushaf, et comme cela est mentionné, mémorisé, pardon, dans le cœur et la poitrine des gens. Jayid. Qala Sheikh Al-Shatri hafidhahu Allah ta'ala, dhakara al-mu'allifu huna ma yata'allaqu bi tartib al-ayat wa suwar wal murad bi tartib al-Qur'an 'adamu taqdim shay'in muta'akhirin من آيات القرآن أو صوره على المتقدم منها، سواء كان في تلاوة الإنسان أو في كتابته، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وترتيب القرآن على أنواع سنذكرها إن شاء الله. يجي الشيخ الشثري حفظه الله يديك لوتور يسي رحمه الله تعالى فإفوكي ce qui concerne l'ordre des versets et l'ordre des sourates. L'ordre des versets et des sourates. D'accord ? Donc ce qui est visé ici par Tartib al-Qur'an, c'est quoi ? C'est ben justement le fait de ne pas faire avancer une chose qui se trouve après, de ne pas la déplacer et mettre cette chose-là avant, alors que elle se trouve après dans le Qur'an. Que ce soit des versets coraniques ou des sourates. D'accord? Exemple. On donnera des exemples, inshallah ta'ala, plusieurs après. Le fait de mettre Maliki Yawmiddin avant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc là, tu auras changé l'ordre des versets. Fahimt? Tayyib. Que ce soit des versets ou des sourates. On verra après, inshallah ta'ala. Que ce soit à travers la lecture simple du Coran ou la récitation simple du Coran ou dans l'écriture du Mus'haf. Que ce soit en prière ou en dehors de la prière. D'accord? Donc on va voir ici que la disposition du Coran est de trois types. Combien? Trois. النوع الأول ترتيب الكلمات. ترتيب الكلمات. بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية. وهذا ثابت بالنص والإجماع. ولا نعلم مخالفا في وجوبه والتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ القارئ لله الحمد رب العالمين. هذا يجوز أن تقول لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. هذا لا يجوز. Le premier type d'ordre, de tartib, que l'on retrouve dans le Coran al-Karim, tartib al-kalimat. C'est quoi al-kalimat? C'est les mots. D'accord? De sorte à ce que on veille, de sorte à ce que l'on veille à ce que tous les mots du Coran soient dans le bon ordre. D'accord? Et l'ordre des mots qu'il y a dans le Coran, dans tous les versets coraniques, il est confirmé au niveau textuel, mais aussi au niveau du consensus, bil-ijma. Il dit les chers, on ne connaît aucune divergence sur l'obligation de respecter l'ordre des mots et sur l'interdiction de changer l'ordre des mots. Donc il n'est pas permis de dire, par exemple, au lieu de dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Est-ce qu'il est permis que tu dises Lillahi Alhamdu Rabbil Alameen? Hein? D'inverser Alhamdu et Lillah. Au lieu de dire Alhamdulillah, tu dis Lillahi Alhamdu. Est-ce que c'est permis? Non, c'est pas permis. Ça y est, il faut garder l'ordre des mots comme cela nous a été rapporté. du prophète, alayhi salatu wa salam. Jaïd. Lidhalika qala al-imam al-Shatri, rahimahullah ta'ala, wa dhalika li'anna al-taghir fi tartib al-huruf wal-kalimat yughayyiru fi al-ma'na. Fa'inna al-taqdim al-fa'il aw taqdim al-maf'ul aw taqdim al-fi'l aw taqdim al-muta'alliq min jarin aw majrurin أو ظرف يغير المعنى كل ذلك يغير المعنى فإن عادة العربي في كلامه أن يقدم ما هو مقصود بالكلام ثم إن من عادته أيضا أنه إذا قدم شيئا على شيء فله فائدة من مثل فائدة القصر مثلا فمثلا قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين جيد. فإن التقديم المعمول إياك يفيد قصر الحكم أي لا نعبد إلا إياك. جيد. جل الشيخ الشثري رحمه الله وحفظه. Donc le premier type qui est tertib al-kalimat, l'ordre des mots. Pourquoi? Parce que le fait de modifier l'ordre des mots ou même des lettres, change de sens. Jayid, le fait de faire, de mettre en premier al-fa'il, celui qui fait l'action,
ou au contraire de mettre en premier al-maf'oul, celui qui subit quoi? L'action. Ou de mettre en premier le verbe. Ou de mettre en premier tout ce qui concerne les lettres qu'on appelle huruf, al-jar, ou les choses qui sont touchées par justement al-jar, qui devient donc majrour, hein, pour ceux qui ont appris un peu la grammaire arabe, connaissent tout ça. Ou de le fait de mettre en premier al-dharf, les adverbes de temps ou d'endroit. Tout cela, en vérité, va avoir des répercussions sur le sens. Que tu le mettes avant ou après, ça va changer le sens. D'accord? Donc, fait partie de la rhétorique des Arabes, et que dans leurs paroles, ils vont mettre en avant la chose sur laquelle ils voudront mettre l'accent. D'accord? La chose sur laquelle ils voudront insister, ils vont le mettre au début de la phrase. Vous voyez? Donc ça change le sens, ça change l'intention de la personne. Ça fait partie de leur façon de parler et de s'exprimer également, le fait de faire, quand ils vont devancer quelque chose sur quelque chose d'autre, eh bien cela va exprimer une idée particulière. Ça va exprimer une idée. Ça va exprimer une idée particulière. Comme par exemple, dans la sourate al-Fatiha, Iyaka na'budu. Le fait qu'on ait dit en premier Iyaka avant na'budu, ça exprime quelque chose. Ça exprime une idée. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit na'budu ou na'buduk. Nous t'adorons. Il a dit Iyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. C'est pas la même chose. Donc le fait de dire Iyaka na'budu, ça exprime ici une idée de limitation, de restriction. C'est-à-dire, nous n'adorons que toi, et toi seul. Alors que si tu dis na'buduka, ici il n'y a pas d'idée, cette idée-là de restriction ou de particularisation. Il se peut que la personne adore Allah, mais adore avec Allah quelque chose d'autre. D'ailleurs, si il dit na'buduka. Par contre, si il dit iyaka na'budu, là on comprend par là qu'il n'adore que Allah. Donc on voit qu'ici l'importance de l'ordre. Jayyid? Non. Donc c'était le premier type de madan de tartib. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة. قال فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا في القرآن من مكانه. جيد؟ وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. دوزيام تيب دو ترتيب، لو ترتيب كي كونسيرن لي آيات لي فيرسي دو سورت اسكو شاك فيرسي doit être à sa place dans la sourate. Comme cela a été confirmé par le texte et par le consensus également des ulama. Et cela est obligatoire selon l'avis prépondérant. C'est-à-dire le fait qu'il est interdit de ne pas respecter l'ordre des versets dans la sourate. Par exemple, il ne sera pas permis de dire Maliki yawmiddin Ar-Rahman Ar-Rahim au lieu de Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin. C'est permis de changer l'ordre? Là, c'est interdit. Dans l'authentique de Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Zubayr a dit à Uthman ibn Affan, il lui a dit, par rapport à la parole d'Allah, dans la sourate Al-Baqarah, dans le sens rapproché du verset, il dit à Allah, et ceux, ceux qui vont mourir parmi vous, hein, donc on va prendre, inshallah ta'ala, la sourate Al-Baqarah, verset 240, dans le sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux d'entre vous que la mort frappe, na'am, et qui laissent des épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses, pourvoyant à un an d'entretien, sans les expulser de chez elles. On comprend par là, que ce verset-là, au départ, indiquait que la femme veuve, son époux, yani le défunt, ce qu'il laisse en argent, doit être utilisé pour entretenir la veuve, sa femme, pendant une année. Et que son délai de viduité est d'une année entière. Et qu'elle ne doit pas être expulsée de chez elle. Jayyid? Mais, ce verset-là, il a été abrogé, son jugement a été abrogé par un autre verset de la même sourate, Al-Baqarah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est le verset 234. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Alors que dans l'autre verset, c'était combien? Une année. D'accord? Donc le verset qui est venu abroger, qui est descendu au niveau chronologique après, c'est le verset des 4 mois et des 10 jours. C'est lui qui est descendu après. Mais dans la sourate, il se trouve avant, au niveau de l'ordre de la sourate. Pourquoi? Parce que le verset des 4 mois et des 10 jours, c'est le verset 234. Alors que le verset de une année, c'est le verset 240. Donc c'est lequel qui est en premier? C'est le verset des 4 mois et 10 jours. Ça? Pourtant, c'est lui qui est venu abroger l'autre verset. C'est pour cela que qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Zubayr lorsqu'il a vu ça? Hein? Il a dit, pourquoi tu l'écris ce verset? Pourquoi malgré le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est abrogé et qu'en plus il se trouve après l'autre verset, pourquoi l'écriture? Pourquoi l'écriture n'a même ce verset? Alors il a répondu à Uthman, radiallahu anhu, il a dit, ô mon neveu, je ne peux modifier une chose du Coran, min makanihi. Je ne peux changer de place. Je ne peux changer un verset de sa place, ou modifier sa place dans la sourate. Par exemple, vu que ce verset-là a été abrogé, hein, le maître par exemple, avant le verset qui est venu abroger. Comme ça, il n'y a pas de confusion ou ce genre de choses. Là, Othman il a dit, on n'a pas le droit, malgré ça, on n'a pas le droit de modifier leur agencement et leur disposition, la disposition avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fahimt? Non. Également, Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, rapporté sur Uthman, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets ou les sourates lui étaient descendues, les sourates, il y en a avec un nombre particulier de versets, Tayyib, et lorsque donc, une chose lui descendait, qu'est-ce qu'il faisait le prophète? Il appelait les sahaba qui avaient pour tâche d'écrire les versets, et il disait, mettez ces versets-là dans telle ou telle sourate. Prenez ces versets-là et mettez-les dans telle ou telle sourate, hein, un endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur indiquait. D'ailleurs, donc on voit par là que l'ordre des versets dans les sourates est un ordre qui résulte de la révélation. C'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit de modifier l'ordre des quoi? Des mots, mais le deuxième type là, c'est, on parle de quoi? On parle des versets. Les mots, c'est le premier type, le tertib. Le deuxième type de tertib, c'est les versets. Non. فترتيب الآيات لا يجوز لإنسان أن يقدم آية على آية في قراءة في سياق واحد وذلك لأن ترتيب الآيات يؤدي معنى وعند تغيير الترتيب يتشكل معنى آخر قد يكون غير مقصود بل قد يؤدي إلى مضادة المعنى الأول لذلك يؤتى في الآيات مرة بأسلوب إعطاء كل جزئية حكمها معها ومرة يؤتى بأسلوب الإتيان بالأفراد ثم إعطاء حكم كل بعد ذكر الجميع ومرة يؤتى بالتقديم وتأخير مما يعرف باللف والنشر بحيث يكون مذكور أولا وهو المحكوم عليه أخيرا والمذكور أخيرا والمحكوم عليه أولا ومن أمثلة ذلك قوله في ذكر الليل والنهار قال جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وفي مرات يأتي بالليل ويذكر فائدة بعده ثم يأتي بالنهار ويذكر فائدة بعده وما ذاك إلا لكون هذه الآية في سياق معين فناسب مراعاة ذلك السياق. يجيل الشيخ شتري حفظه الله تعالى. Donc l'ordre des versets, il dit n'est pas permis à quiconque de changer l'ordre, de mettre, يعني d'avancer un verset sur un verset. Voyez, de manière volontaire. Dans la lecture et dans un même sujet, dans un même contexte. Pourquoi? Parce que l'ordre des versets indique un sens particulier. Donc toi, quand tu vas changer l'ordre des versets, qu'est-ce qui va se passer? Apparaîtra un autre sens. Et il se peut que ce sens-là qui va apparaître, un nouveau sens, eh bien, ne soit pas l'intention de base d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, cela peut même provoquer ou engendrer l'apparition d'un sens qui est contraire à ce que Allah jalla wa ala a voulu à la base. Mathalan, dans certains versets, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala va citer une chose et avec cette chose-là, Allah il va mentionner son jugement. Il va citer la chose puis son jugement. Puis il va citer la deuxième chose, puis son jugement. Puis la troisième chose, puis son jugement. Et d'autres fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va d'abord citer tous les éléments, toutes les choses. Toutes les choses. Hein? Chaque élément. Et à la fin de chaque, de la mention de tous les éléments, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va citer le jugement de toutes ces choses-là. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va, il y a un effet à ce qu'on appelle dans la rhétorique arabe, al-laf wa-nashr. C'est-à-dire que c'est un procédé rhétorique, hein, que les Arabes connaissent. On va donner un exemple pour que vous compreniez, inshallah ta'ala. Le fait de citer une chose en premier et de donner son jugement à la fin. Et dans le même temps, citer une chose en dernier et de citer son jugement en premier. Il y a une forme de symétrie ici. Il y a une forme de symétrie. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois quand il cite la nuit et le jour. Hein? La nuit et le jour. Notamment ici, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché, et fait partie de sa grâce le fait qu'il ait établi pour vous la nuit et le jour. Donc, qu'est-ce qu'il a cité en premier? La nuit ou le jour? La nuit. Le fait qu'il ait établi pour vous la nuit et le jour. Puis qu'est-ce qu'il dit? Litaskunu fihi. Afin que vous vous reposiez, afin que vous vous reposiez pendant ce temps-là. Le repos, c'est quand? C'est la nuit ou le jour? C'est la nuit. D'accord? وَلِتَبْتَرُوا مِنْ فَضْلِهِ. Et afin que vous recherchiez de sa grâce. Allez, afin que vous alliez chercher sa grâce, que vous sortiez et que vous alliez travailler et aller chercher la subsistance. C'est quand ça? C'est le jour. Donc ici, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'abord cité la nuit et le jour, puis il a cité, yani, d'abord les bienfaits de la nuit, puis après les bienfaits du jour. D'accord? C'est bon? Donc là, cet ordre-là, on doit le respecter. Jayyid. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va d'abord citer la nuit, et après la nuit, il va mentionner son bienfait, directement après, puis il va citer le jour, et il va citer là le bienfait du jour juste de suite après. J'ai dit? Comme dans la surat al-Naba. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et nous avons fait de la nuit, yani libasa, un vêtement, et du jour, yani, pour les affaires de la vie. Hein? On a assigné, on a fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie. Deyid? Non. Et cela donc, cet ordre-là doit être respecté. Pourquoi? Parce que chaque verset, il vient dans un contexte bien spécifique, et donc il est approprié à ce que on veille à, au contexte, yani, et à l'intention, à l'enseignement que l'on voudra donner par rapport à la chronologie de tout ça. Na'am.
والنوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران جيد وروى أيضا البخاري تعليقا عن الأحناف بن قيس
رضي الله عنه أنه قرأ في الأولى بالكاف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أن صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح بهما. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. Troisième type de tartib, d'ordre dans le Coran, l'ordre cette fois des sourates. Donc on a vu l'ordre des mots, on a vu l'ordre des versets, maintenant l'ordre des sourates. De sorte à ce que chaque sourate se trouve à sa place. Donc cela est confirmé, bien sûr. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, lui il est d'avis que l'ordre des sourates est le fruit d'un ijtihad. C'est le fruit d'un effort de réflexion. Hein? Et donc, cet ordre-là n'est pas obligatoire. C'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin. Cet ordre-là n'est pas obligatoire, l'ordre des sourates. Il cite ici le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman dans Sahih Muslim, qui a dit que il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Et le prophète, il a récité d'abord Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah. Puis il a récité Surat An-Nisa. Puis il a récité Surat Ali Imran. Est-ce que c'est l'ordre que l'on a actuellement dans le Mus'haf? Qu'est-ce qu'il y a juste après le Baqarah, normalement? Là. Il y a Ali Imran. Le Baqarah, Ali Imran, après An-Nisa, hein? Et après Al-Ma'ida. Et après Al-Ma'ida. D'ailleurs, donc là, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il a récité d'abord Al-Baqarah, puis An-Nisa, puis Al-Imran. D'ailleurs, donc il dit le Cheikh Al-Uthaymin, ça c'est la preuve qu'il n'est pas obligatoire de respecter l'ordre des sourates dans la récitation. Hein? Non. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté également un hadith du compagnon Ahnaf ibn Qais, radiallahu anhu. Même si le hadith, on n'a pas la chaîne de transmission dans son intégralité, il dit ici que Ahnaf, il a lu dans la première raka'a Surat al-Kahf. Et dans la deuxième raka'a, dit qu'est-ce qu'il a lu? Yusuf ou Yunus dans le Mus'haf, est-ce que Al-Kahf il est avant ou après Surat Yusuf ou Surat Yunus? Il est après. Surat Al-Kahf, c'est la 18e Surat. C'est la 18e. Alors que Surat Yusuf et Surat Yunus, hein, si je ne me trompe pas, Surat Yunus c'est la 10e. Ouais, c'est la 10e. Et Surat Yusuf, c'est la 12e. D'accord? Donc il dit, c'est la preuve que on a le droit de réciter d'abord Surat Al-Kahf avant Surat Yunus. Et il a dit également Al-Ahnaf, comme quoi il a prié derrière Omar, qui a aussi récité ces surat-là dans cet ordre-là. Hein? Puis il dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'il est permis donc de lire certaines sourates avant certaines sourates. Par exemple, tu peux lire sourate Al-Falaq avant l'Ikhlas, par exemple. Tu as le droit. Si on prend l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. Jayid? Il dit même, Cheikh Al-Islam, même dans l'écriture, tu peux écrire d'abord sourate Al-Nas avant sourate Al-Falaq.
pour ça qu'il dit que même les masahif des sahaba à l'époque, eh bien, ils divergeaient. L'ordre des surat, il y avait une divergence au niveau de l'ordre des surat. Parce quoi? Pourquoi? Parce que, il dit Charles Thaymin, que cela était, était en fait le fruit d'un ijtihad. Le fruit d'un effort qu'ils ont fait, alhamdulillah. Mais du coup, ils divergeaient sur l'ordre des surat, ou de certaines surat. Jusqu'à ce que Uthman, radiallahu anhu, a décidé, donc à l'époque de Uthman, a décidé de réunir tous les masahif et d'en faire qu'un seul, et de faire qu'il y ait qu'un seul ordre et unique. D'accord? Et cet ordre-là est arrivé, est parvenu à nous jusqu'à nos jours. Alhamdulillah. Il dit, cher l'islam, à ce moment-là, lorsque Uthman, il a réuni et il en a fait qu'un seul et unique ordre, eh bien, c'est devenu, il dit, une sunna. Le fait d'adopter cette chose-là, elle a été adoptée par les califes, Rashidoun. Il n'y a pas de doute que Uthman, il fait partie des quatre califes bien guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont connu la vérité, qui ont suivi la vérité. D'accord? Et donc, le hadith, il prouve que le hadith qu'on va citer après, inshallah, il prouve que ce que ont légiféré les quatre califes, c'est une sunna qu'il est obligatoire de suivre. Wa huwa ad-dalil hadha isharatan ila ma rawahu Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah wa Ahmad fi Musnadi wa sahahahu al-Albani rahimahullah fi Sahih al-Jami'. Wa fihi anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala: "Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in 'abdan habashiyyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le hadith en question rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad, authentifié par Al-Albani rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, yani au gouverneur, même si le gouverneur est un esclave abyssin. Et celui qui vit parmi vous après moi verra de nombreuses divergences, ou verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous à ce moment-là à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Des califes bien guidés et qui sont rachid, rachidines, c'est-à-dire qui ont connu la vérité, accepté la vérité. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Tamassakou biha. Accrochez-vous, attachez-vous-y à la sunna des califes. Attachez-vous-y et mordez-la avec vos molaires. Et attention aux choses nouvellement inventées. Car chaque chose nouvellement inventée est innovation et toute innovation est égarement. D'accord? Donc ça, c'est la preuve que ce qu'a fait Uthman, on doit s'y attacher et donc il est obligatoire de respecter cet ordre-là, alhamdulillah, qui est l'ordre des sourates. Comme a dit le cheikh Chatri, al-sawab, annahu la yajuz kitabatu al-ayat al-qur'aniyya wa la sour al-qur'aniyya ala ghayr al-tartib al-ma'hud illa idha arada al-insan kitabata sour laysa ala jihati kawniha al-mushaf tamman. Donc comme l'a dit le cheikh Chatri, rahimahullah ta'ala, ce qui est juste, c'est qu'il n'est pas permis d'écrire les versets coraniques, ni les versets coraniques, ni les sourates coraniques, dans un ordre différent que l'on connaît actuellement. Tu n'as pas le droit, d'accord, d'écrire. Là, tu vas écrire par exemple un mushaf, et tu vas mettre d'abord sourate An-Nisa avant sourate Al-Baqarah. Tu n'as pas le droit. Tu dois mettre sourate Al-Baqarah après sourate Al-Fatiha, obligatoirement. D'accord? Que ce soit des sourates ou des versets. Jayyid. Sauf si bien sûr, la personne elle veut écrire une sourate, mais elle n'a pas l'intention d'écrire le mushaf. Ce n'est pas son intention. Son intention à elle, c'est d'écrire une sourate pour faire son tafsir, par exemple. Comme dans les livres de science, où on va trouver des sourates hein, dans un ordre différent. Pourquoi? Parce que l'auteur n'a pas l'intention de faire un mushaf. Il a juste l'intention de citer quelques sourates pour les expliquer, pour en faire un tafsir ou autre.
ou dans le fil de ses cours, ou le fil de l'explication d'un kitab, ou d'une risala, ou autre que cela. Vous voyez? Mais celui qui a l'intention de d'écrire le mushaf, il est obligé de respecter l'ordre des sourates du Coran. Wallahu ta'ala a'lam. Non. Alhamdulillah. بذلك ينتهي هذا الدرس اليوم إن شاء الله تعالى صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.